Je passe tout de suite la... Oui, à Patrick Vardas.
Là, je suis bien placé, là, parce que j'entends pas bien. C'est bien placé, là.
Donc, non, non.
Alors, j'ai donné comme titre, je ne sais pas quoi dire. C'est quand même drôlement embêtant, étant donné que tous les dispositifs analytiques, c'est-à-dire la cure, les contrôles, elles restent, et les dispositifs d'école, qui sont la passe et toutes ces choses-là, reposent sur la parole, d'abord. Hein, ça précède l'écrit. Alors, vous savez que Lacan ne lit pas son enseignement, enfin, au sens de nouer, à des marques, à des traces. Il utilise un terme de Freud qu'il reprend, qui est le terme de frayage. Frayage, ça veut dire que, par exemple, dans une forêt, on trace une piste, on fait un trou, on fait des choses, des repères de cet ordre-là. Donc, chez Lacan, il ne s'agit pas d'imprimer. Il n'y a pas d'imprimer d'opus sur toi. Ce n'est pas comme les engrammes, par exemple, de la neurologie. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui pose la question de où ça s'écrit et comment et sur quoi. Donc, la position de Lacan, c'est quelque chose de très dynamique. Hein. Je vais mettre mes lunettes, parce que c'est plus ce que je veux dire. Bon. Il le nourrit de notes très abondantes, comme chez Freud, donc ce sont des frayages de ce qui lui vient de sa pratique. Il le rappelle en permanence. Hein. Ça me vient de ma pratique. Et toutes les modifications qu'il a faites dans les différentes structures qu'il nous a présentées sont toujours liées à ce qu'il a découvert dans sa pratique. C'est-à-dire que ça ne lui satisfaisait pas, il fallait qu'il trouve autre chose. Ça l'a emmené où je le savais. Hein. Donc ce sont des trouées, des sillons, des rainures, où coule le désir, la libido, là, ce fluide mythique, qui est bien entendu source de plaisir dans le déchiffrage et également dans le chiffrage de la jouissance. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça, c'est que quand on fait un déchiffrage, il y a un chiffrage de donc il y a un gain de jouissance. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Autrement dit, ce qu'il fait, c'est que ce sont, au fond, il emprunte des voies logiques, avec sa définition que la logique est une science du réel. Il avance sur plusieurs fronts, il revient sur ce qu'il a dit, ça bouge, ça pulse, ce qu'il écrit, comme il le dit lui-même, et ce qui reste de ce qu'il a dit. Autrement dit, il a appelé ça écrit. Alors ça ne veut pas dire les écrits ni mes écrits, même s'il utilise cette parole-là, ça veut dire écrit. Moi j'ai entendu ça, mais je ne peux pas le transmettre. Je ne sais pas l'effet que ça m'a fait de redécouvrir que c'était ça. C'est de tout à fait énigmatique. Hein. Et c'est vrai que quand on les ouvre, c'est assez difficile. Écrits qui font peut-être transmission, non sans qu'il faille quand même y mettre du sien. Hein. Donc, on passe de signe. On le suit en passant par le signifiant. Et ça, c'est un point très important. Plus c'est drôle, dit-il, plus nous sommes dans la vraie psychanalyse. Hein. La vraie, c'est ce qu'il dit. Cette histoire de frayage, ça évoque un petit peu sa métaphore dans l'itérateur de ce que pourrait être une écriture. Hein. C'est-à-dire qu'il est dans un avion, il revient du Japon, et il voit dans la plaine de Sibérie, la plaine qui est sillonnée de ravinements qui sont liés à la pluie. Et donc ça bouge tout le temps quand on fait la demande. C'est de cet ordre-là chez Lacan, c'est pas autrement que ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette métaphore qui vient l'éclairer. Alors, donc, comme je ne sais pas quoi dire, hein, quand même, je commencerai par le commencement. In principio erat verbum. Je me demande d'ailleurs qu'on débatte un peu là-dessus. En tout cas, il y a une discussion très, très passionnée même de Lacan avec ses élèves de l'époque, c'est dans le séminaire... Du 15 juin, la leçon du 15 juin du séminaire 1955 du mois dans la théorie de Freud et dans la technique psychanalytique. Alors, il a comme interlocuteur des gens qui sont des costauds quand même, il y a Serge Leclerc, malgré tout, il y a Bernheim, qui est devenu, qui était un jésuite et qui a défroqué, qui est devenu membre de l'école freudienne, AE, AME, comme Leclerc d'ailleurs. Hein. Bon, alors que ses interlocuteurs traduisent verbum par « au commencement était la parole », Lacan soutient mordicus que ce prologue de Saint Jean doit se traduire par « au commencement et le langage ». Ça, il le tient. Il appuie de sa puissance, parce que vraiment, il ne donne pas tellement d'arguments pour dire que ce n'est pas la parole. Hein. Il le tient comme ça. Il va chercher, bien entendu, ses références chez saint Augustin et son texte de la signification. Et Lacan dit que verbum, ce n'est pas fides, ni dabar non plus, car saint Jean n'écrit pas en hébreu, même si sa pensée est habitée par cette hébreu. Et que là, nous avons chez lui la traduction de ce qu'il écrit en grec en latin. Verbum pour Lacan, il le dit très clairement, c'est le signifiant, c'est le mot, c'est le logos grec, c'est le langage. Toute parole est même au fiat, est antérieure au fiat et de la Genèse. Hein. À quoi toute parole est antérieure. Non, qu'est-ce que je raconte? Le langage, c'est moi qui me trompe. Le langage est antérieur à toute parole et même au fiat de la Genèse. Là, je vous dis, nous sommes dans la tradition, moi je me place dans la tradition que je connais le mieux, c'est-à-dire pas beaucoup, la tradition chrétienne. Parce que moi, je me fous des religions. Je crois en Dieu, mais je me fous des religions. Vous direz à quel Dieu je crois. Alors, dans le registre de la tradition chrétienne, que Freud, par son christocentrisme, ne récuse pas. Hein. Lacan donc précise que pour qu'il y ait un commencement, il faut qu'il y ait quelque chose d'avant. C'est ça son argument. C'est-à-dire, et pour lui, c'est le langage qui est antérieur à la parole. Bon, pour lui, il le répète à satiété tout le temps, le langage est là depuis toujours et qu'il sera le même, la même après la mort. Voilà comment il présente la chose. Ça, c'est ce qu'on ne laisse pas, c'est le mystère du corps parlant. Il faut renoncer à savoir quelle est l'origine du langage. Néanmoins, Lacan, ça le tracasse, cette histoire. Et alors, il dit quelque part, une seule fois, que je n'arrive pas à retrouver, il dit que, alors je le paraphrase de mémoire, il dit qu'au fond, le corps humain il présente une sensibilité, une affinité particulière au langage. Et ce qui se confirme, par exemple, chez les animaux domestiques, qui désignent comme étant un mâle d'homme, n'est-ce pas, qui témoignent effectivement qu'ils ont un rapport à la parole. Alors que les animaux sauvages, par exemple, et c'est héréditaire chez les animaux domestiques, qui sont les mêmes depuis le début de l'humanité, enfin tel qu'on connaît le début de l'humanité, parce que ça c'est une autre affaire. Hein. Et les animaux sauvages, on peut les apprivoiser, éventuellement, mais on ne peut pas les domestiquer, et ce qu'on leur a appris, ce n'est pas transmis héréditairement. Voilà. Alors à présent, j'en viens à cette histoire de Moïse, et des tables de la loi, et de Dieu. Alors, je ne vais pas vous parler du Dieu du tétragramme, dont le nom est interdit de prononcer en dehors du temps et en plus que pendant le Yom Kippour et aussi par le grand prêtre, une seule fois. Bon, ça date de 2000 ans, maintenant il n'y a plus que des écrits. Hein. On parle de ça que par les écrits. Je vais prendre celui de la version chrétienne. Selon cette dernière, d'après la tradition chrétienne, après l'Exode, Moïse va sur le Sinaï. Parce que Dieu le convoque pour sceller une alliance entre lui et le peuple d'Israël. Moïse en sera l'intermédiaire. Et alors une question se pose, parce qu'il y a deux versions. Est-ce que c'est Dieu qui remet à Moïse les tables de la loi, ou est-ce qu'il les a dictées à Moïse, qui les a écrites sur les tables, hein? Ça c'est important. Vous verrez, parce que c'est des rapports, j'essaie de faire bouger les choses entre la parole et l'écrit. C'est ça que je suis en train de... Moi, c'est un truc qui me tracasse beaucoup. Alors, Bon. Moïse va rejoindre son peuple, il constate qu'il se voue au veau d'or et qu'il ne respecte pas du tout l'alliance. Donc il retourne, alors il est furieux, il jette les tables de la loi, il les brise. Ce qui est important parce que dans la tradition hébraïque, une alliance, il faut toujours qu'il y ait une brisure. Hein, alors que dans nos religions, on ne parle pas comme ça. Alors, nouvelle alliance et nouvelle. Nouveau scénario. Moïse a écrit sous la dictée de Dieu, où Dieu lui a remis les tablettes. Bon, ces tablettes seront remises au peuple et elles seront conservées dans l'arche d'alliance tant que le temple aura été construit. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais vous dire, moi, les religions, je m'en fous parce que ce qui se produit, parce que ça, il faut être très attentif à ça, et Lacan nous prévient. Il faut que, comme psychanalyste, on fasse attention à la religion. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on a affaire à la science. On a affaire à des bouts de réel que nous sort la science en permanence. Donc on sait que ça devient une souffrance. Alors la science, selon un schéma de Lacan, c'est R. Attends, la science, c'est S-I-R. Elle symbolise les images qu'elle se donne du réel. Ça, c'est un nouage borroméen. Hein. La religion, il dit, il faut quand même, il faut faire attention avec la religion. On ne fait pas beaucoup attention, mais il faut faire attention parce que on est préservé dans la psychanalyse par la religion parce qu'elle donne du sens au réel que la science a découvert. Alors, la science, hein, la religion, entre la religion et la science. Alors, la religion, elle réalise ce qui du symbolique peut s'imaginer. RSI. Les minéraux RSI. La science, elle, je vous l'ai dit, je crois que je l'avoir dit, elle symbolise les images qu'elle se donne du réel. C'est-à-dire qu'elle fait des expériences et puis après les ordinateurs calculent les algorithmes. Et quant à la psychanalyse, elle imagine, donc elle invente, ce qui du réel peut se symboliser. Alors, dans cette histoire de frayage, justement, il faut être attentif parce qu'on aurait tendance à penser que ce qu'on appelle, nous, le dire comme un avènement du réel, c'est fixé une fois pour toutes. Mais pas du tout, ça bouge tout le temps. Ça bouge tellement que Lacan dit que même un réel qui est impossible à dire et à écrire, quand on finit, on est obligé de finir par l'écrire. Seulement, quand on l'a écrit, eh ben, ça devient comme tout ce qui se passe dans les montages symboliques, c'est du mensonge. Il le dit comme ça, explicitement. Hein. Alors, je fais remarquer au passage que quelque chose nous fait un petit signe, comme ça. Freud allait très régulièrement à Rome, avec, vous savez, la difficulté dont il témoigne, et il allait rendre visite au Moïse de Michel-Ange dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens. Et il décrit comment il était ému, il était bouleversé même par cette statue. Et qu'est-ce qu'il nous dit, en fait, avec l'aide de Michel-Ange, bien sûr, par le biais de Michel-Ange et d'un artiste. Il demande à un artiste de lui faire des schémas, des 4 ou 5 postures que pourrait représenter la position de Moïse. Et il finit par dire, Moïse n'a pas brisé les tables de la loi parce qu'au moment de les jeter, il s'est repris et il a collé les tablettes sous le coude comme ça et il s'est assis. Donc Freud, il nous fait quand même un petit clin d'œil par rapport à la religion, hein, quand même. C'est quand même un signe qui nous donne. Voilà. Enfin, je le prends comme ça parce qu'il faut ramasser les choses un peu partout pour s'en sortir. Donc, le dilemme est le suivant. Pour le sujet, que nous sommes tous d'ailleurs, hein, ou bien l'écrit, et des lois en particulier, a la primarité sur la parole qu'il engendre, ou bien la parole, celle de Dieu, est première. Alors, non sans engendrer d'ailleurs, au-delà du dire de l'énonciation, de l'acte d'énonciation, l'avènement d'un dire, d'un bout de réel nouveau qui s'écrit. Et comme ça se lit comme un savoir supposé sujet. Vous savez que le verbe dire, par exemple, comme tous les verbes, comme tous les verbes, le verbe dire, eh ben c'est comme l'appelle Lacan, c'est insignifiant, pas si bête. C'est pas si bête que la bêtise du signifiant, au regard du quoi s'engendre le sujet qu'il fixe dans la stupidité de son existence. Autrement dit, le verbe permet de bouger dans cette espèce de prise comme ça, et. Fait transition parce que il est équivoque. Voilà comment Lacan présente les choses. Donc, vous le savez tous, ces 10 commandements sont les lois de la parole, hein, écrites. Et vous savez que ce qui confirme la part de réel qu'il y a là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous transgressez le moindre commandement, il en résulte une abolition de la parole, c'est-à-dire que ça n'est plus comme ça, qui perd de sa fiabilité au regard du réel qu'elle sert. Alors justement, c'est la question qui est intéressante là, c'est que tout spécialement l'interdit en deux mots de l'inceste n'y figure pas. Et pour cause. Pour cause, car comme tout ce qui est interdit en un seul mot désigne l'objet désiré. Là, comme l'inceste n'y est pas, il est impossible à dire et donc à réaliser, sinon dans la psychose, bien entendu, l'inceste est impossible à la limite, et de toute façon, pas à confondre, bien sûr, avec la copulation qui aussi exerce des ravages. Hein. Et ça se passe dans le symbolique, cette affaire-là. C'est pour ça que je ne te l'ai pas donné. Moi, je vais vous dire ce que je pense, je le dis depuis toujours. Je ne peux pas donner un texte que je vais exposer quelque part, dans un colloque ou n'importe où. Je travaille la nuit encore avant, en essayant de récupérer des choses qui me viennent au fur et à mesure des associations. Donc, je peux pas, je n'ai pas et je ne veux pas donner mon texte à l'avance. Je les interprète, se démerdent. Hein. D'ailleurs, je me signale, j'en ai parlé avec des interprètes dans les colloques. Ils trouvent plus facile de traduire une parole, même s'ils ne comprennent rien, que s'ils traduisent un texte écrit. Alors, on croit y gagner, nous, mais en fait, c'est faux. Hein? Alors, d'ailleurs, on a vu quelques traductions circuler là, sur l'AME, des fois. Bon, on est tolérant, mais enfin, quand même. Vous savez pas bien ce que ça veut dire les broches, par exemple. Ils utilisent toujours le terme de broche, on ne sait rien. C'est un mot qui arrive à nommer des broches, je pense que ça veut dire nommer des broches. Non, mais ça, je parle de. Alors, voilà. Dans le savoir du psychanalyste, 4 novembre 1971, donc un séminaire contemporain avec Empire, Lacan dit que le langage, ça n'existe pas. Une sacrée annonce, hein, quand il nous a dit ça. Ça n'existe pas, que c'est une élucubration de savoir au regard de la langue. Voilà ce qu'il dit. Il dit ça comme ça. Et pour parler de la primarité de la parole, je vais parler simplement du nourrisson, nouveau-né, qui commence à s'imprégner de la langue parlée dont il est entouré, qui apprend très vite son prénom, il reconnaît très vite son prénom, d'autant plus qu'on lui donne au moment de la naissance son prénom. Déjà, il repère des choses comme ça. Donc, l'enfant, le petit homme, plonge dans la langue, et la langue elle-même plonge ses racines profondément dans le corps. Hein. Elle est constitutive, bien sûr, de l'inconscient, structurée comme un langage, qui est assimilé au tronc de l'arbre, puisqu'il y a la métaphore de l'arbre, comme ça, l'arbre du savoir, d'ailleurs, tout, celui de la Bible en plus, on peut le dire comme ça. Donc vous voyez, ça, on peut glisser de terme en terme, comme ça, dans une métonymie sans fin. donc de la langue parlée, qui prime, elle est constitutive donc de son inconscient, et les branches de cet arbre, comme ses feuilles, sont autant de brins de jouissance. Donc la langue qui colonise le corps et qui dénature sa jouissance et en même temps l'anime. Voilà. Alors, bien sûr que l'enfant, il va falloir qu'il apprenne le lexique, la grammaire, toutes ces lois de, hein, de la grammaire, l'orthographe et la syntaxe, pour passer à la langue maternelle, qui sera d'abord l'idiome, à partir de la langue maternelle, l'idiome de sa contrée, et puis après il devient l'idiome de son pays. Voilà un peu cette succession que je prends comme exemple pour signifier que là, pour nous, êtres humains, on est tous passés par là, c'est la parole qui prime sur l'écrit, même si les écrits ont un impact sur l'existence des sujets, bien sûr. Alors, le Dieu, là, le Dieu dont je vous parlais au commencement, le Dieu de la parole, eh bien, définissons-le comme Lacan le fait dans sa traduction à lui. C'est Dieur, c'est comme ça. C'est dans la troisième, et également dans la conférence de presse en novembre 1974. Je passe quand même un truc trop long. Donc le créateur, pour Lacan, c'est Dieu. Et la vérité dépend de lui. Dieu, comme il le dit, donc je laisse tomber tous les jeux de mots qu'il fait là-dessus, Dieu c'est le dire, c'est ce qui fait être la vérité, ça je le cite, ce qui en décide à sa tête, il suffit de Dieu comme moi, c'est la vérité, pas moyen d'y échapper, si Dieu me trompe, tant pis, c'est la vérité par le décret du Dieu, la vérité en or. Alors, passons. Alors pourquoi pas, ne pas dire qu'au commencement, à cause du Dieu, qu'au commencement, il y avait, écrivez-le, Y-A-H-V-E, il y avait la langue. C'est ça que je veux dire. J'assimile il y avait à la langue, Dieu à la langue. C'est lui qui profère la parole divine et tout le reste. Évidemment, il ne suffit pas de parler pour produire un dire. Hein. Mais pour produire un dire, il faut quand même parler. Sinon, ben, vous passez à côté. Autrement dit, un dire, justement, fondé par la parole, un dire comme avènement d'un réel par le biais de l'énonciation ou de l'annonciation, si vous voulez, il y a toujours, comme pour l'effrayage, un forçage à faire, une subversion à produire. Sinon, ça ne passe pas. Voilà. Alors, tout ça va me permettre de vous montrer, je vais aller au tableau, comment Lacan établit la matrice de la parole, celle qui nous intéresse nous. On ne va pas aller toujours chercher chez d'autres auteurs la parole, c'est important qu'il nous donne la matrice structure de la parole. Alors, je vais aller au tableau, je vais aller à vous d'avoir dit ça. Parce que lui, il le dit bien, ce qu'il cherche, à trouver, c'est un réel sans loi. Hein. Et bien entendu, il n'y arrive pas. Il le dit tout le temps, vers la fin, il cherche un nouveau signifiant, il ne le trouve pas, et il finit par conclure en disant que probablement c'est parce qu'il y a un réel là-dedans. Hein. Son échec, c'est sa réussite. C'est quand même pas rien, parce que pour nous, pour toutes nos approches de certains objets qui ne sont pas familiers, ça compte beaucoup cette affaire-là. Pensez qu'on bute sur quelque chose d'impossible à dire, à écrire, parce que si on l'articule dans le signifiant, ben ça devient un mensonge, on ne se rend pas à côté. Alors, bien sûr, cette écriture, puisqu'on en parle, dont on parle, quel en est le support? Alors, en disant l'instance de la lettre dans l'inconscient, on sait bien que les formations de l'inconscient, rêve, lapsus et tout le reste, mots d'esprit, ça se lit dans ce que dit l'analysant, qui lui-même apprend à lire autrement, comme l'interprétation qu'il joue de l'équivoque le lui apprend. L'analysant produit profère des dits dont il ne peut pas se dédire, et l'analyste lui-même dépend de ce qui est dit. par l'analysant. Alors, à un moment donné, il reprend l'histoire des traces. Il dit qu'il y a des traces, des marques. Ça, c'est un truc que je n'ai pas très bien compris. Elles s'effacent toutes seules. C'est-à-dire que rien. C'est comme ça. Ça veut donc dire que quand on attrape un bout de réel dans le langage, eh ben, ça tiendra un moment, puis après, on trouvera autre chose, on se déplacera, et ça sera oublié. Et je vais vous montrer que c'est ce qui se passe dans l'enseignement de Lacan. Alors, j'en suis là. Bon, je joue au tableau la matrice de la parole. La matrice de la parole qu'il produit le 3 février 1972 dans Le Savoir du psychanalyste. Alors, il dit la chose suivante. Vous m'entendez, là, ça va plus ? Il dit la chose suivante. Toute parole s'émet d'un lieu de vérité. Alors, il le met. Vérité, je mets un. La vérité, si vous voulez. Et se déploie selon deux vecteurs. L'un, il aboutit à un pôle qui s'appelle le semblant, le signifiant, le désir, si vous voulez. Voilà, par exemple, l'occurrence. Et l'autre vecteur aboutit là, au niveau de l'autre, du grand autre. C'est-à-dire, un, deux, trois.
Vous arrivez à lire
hein? Non, non, ceux non. Qui écrivent. Ah, mais c'est ce qu'on a pas. On a d'autres qui écrivent.
Vous voyez pas, vous?
Non, pas très bien.
Je vois très bien.
Bah oui, je suis sûr.
Je vois très bien.
Voilà, ils sont un peu morts.
Ah ben dis donc, Cyril marche.
Ah, non, le vert ou le rouge?
Rouge.
Non, le vert. Donc, l'autre vecteur, ça c'est une production de Lacan, ça. Hein. Donc, c'est le 3. Vous pouvez mettre ici l'autre, le savoir, la jouissance. Il y en a un autre terme, j'avais oublié. Ça fait rien. Voilà. Mais ça là. Et puis, il en reste quelque chose qui n'est jamais pris par la parole. Ce reste, c'est ce qu'on va appeler la production. Production. Ou produit. Je ne sais pas pourquoi. C'est... J'arrive pas à distinguer ce qui les distingue tous les deux. Voilà, je comprends pas. Là, je vous mets le truc de Lacan. Voilà. Voilà, voilà la matrice de la parole qu'on trouve dans le séminaire. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus souvent parce que c'est vraiment éclairant pour nous, ça. C'est le savoir du psychanalyste du 3 février 1972. Voilà. Alors, vous voyez bien que là, qu'est-ce qu'on a ? On a un quadripode, quelque chose comme ça. En tout cas, on a cette matrice qui va nous permettre de mettre en place. Comment ça s'appelle ça ? La structure quadripartite dont parle Lacan, qui est exigible depuis la découverte de l'inconscient. Alors vous voyez bien, si j'ai mis des numéros, c'est parce que on va pouvoir se repérer comme ça. Comme si c'est le 4. Et bien voilà la matrice. Je ne vais pas plus loin parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de faire. C'est justement pour vous montrer comment. Quand vous voyez qu'il y a des vecteurs de la parole, ça veut dire que c'est orienté. C'est-à-dire que nous, on a toujours affaire à un réel, du fait d'ailleurs des lois de la gravitation, on a toujours affaire à un réel qui est orienté. Ça ne veut pas dire que c'est le sens, c'est orienté, c'est autre chose, c'est une autre catégorie. Donc ici, vous avez la matrice de tous les discours. Hein. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir dans ce montage. Donc les 4 discours s'ordonne autour de cette matrice qu'a dégagée la parole. Donc il y a d'autres trucs que je ne vais pas mettre parce que ça devient trop compliqué et c'est pas intéressant. Donc voilà, la matrice de la parole, eh bien, vous allez faire le montage des 4 discours. Mmh. Vous allez faire, puisque vous le savez déjà, vous savez comment le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Hein. C'est ce que disait Lacan. Donc, quand il a amené à l'écriture des 4 discours à son séminaire, on ne savait pas d'où ça venait, ce truc-là. On ne comprenait pas du tout. On ne comprenait pas. Il a fallu. Moi, j'ai retrouvé dans son séminaire le moment, parce que je l'avais noté, au moment où il a parlé 2-3 ans après de la matrice de la parole. Alors, je me suis dit, voilà le maillon qui me manquait pour expliquer que c'est la parole qui induit la construction du discours et non pas le contraire. Hein. C'est une hypothèse que je fais, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Il faut parler, si on ne parle pas, ben, on ne fait rien. Donc voilà, les quatre discours sont là. Alors, une chose qui est très importante, c'est que Lacan n'utilise pas la structure comme Lévi-Strauss, hein, comme on l'a vu. Parce que Lévi-Strauss est une structure fermée, alors que Lacan, c'est une structure ouverte, souple, et en plus de ça, qui est une véritable hérésie au regard du structuralisme, puisqu'il y a des places qui sont fixes, mais il y a des lettres qui circulent et qui ont un autre sens. Hein, c'est ce qu'on appelle une écriture bivoque. Hein. Bon, alors, je crois que vous avez pigé ça, maintenant je ne vais pas vous parler de mon discours du capitalisme, parce que ce sera une autre fois. Alors, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que je suis parvenu à vous faire entendre comme ça quelque chose d'un dire qui serait un bout de réel, hein, je crois que si, puisque ceux qui ne connaissent pas du tout la matrice de la parole, ils apprennent un petit truc ce soir, un petit machin, un petit appareil pour avancer dans la compréhension des choses. Et évidemment, ce qui se passe, ça vous le savez, finalement, petit à petit, il abandonne les mathèmes. Il avait sa construction des mathèmes qui était très puissante chez lui, soi-disant transmission intégrale. Il met ça en doute là-dedans. Il dit, mais après tout, il n'y a pas de transmission intégrale. Et comme il vient de s'emparer du nœud borroméen, qui va l'emmener ailleurs. Hein, voilà. Alors, je vous dis ça parce que, rappelez-vous aussi, le sort qu'il fait à son dire, un dire que vous connaissez, vraiment un dire en béton armé, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, il l'a répété depuis sa trouvaille, c'est-à-dire en juin 70, donc dans Radiophonie, c'était écrit le terme, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, c'est un réel vraiment costaud, hein, répété évidemment tout le long de ses séminaires, pratiquement jusqu'à la fin. Seulement, au cours de route, si on ne fait pas attention, on ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire que comme il est sur le neuroméen qu'il essaie de travailler, parce qu'il a du mal avec ça. Hein. S'il n'avait pas eu souris avec lui, il ne s'en serait pas sorti de son neuroméen. Hein. Bon, là, il faut le dire comme ça. Alors qu'est-ce que ça devient à propos de ça, justement? Il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre générations voisines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Moi, pour moi, ça veut dire qu'au fond, la mère, elle inscrit dans le corps de son enfant des signifiants. Moi, je ne vois pas autrement que ça peut être que ça, le rapport. Il n'y a pas de rapport sexuel. Ensuite, il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre un homme et une femme, quand une femme se fait son symptôme. Formidable, ça. Hein, elle se fait son symptôme, il y a un rapport sexuel, et l'homme, il fait n'importe quoi, et il fait des ravages chez elle, puisque, avec sa jouissance uniquement phallique, il rentre dans sa jouissance à elle particulière et il fait des dégâts. Voilà, c'est comme ça que je le comprends le truc. Hein. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ensuite, il n'y a pas de rapport sexuel sauf dans le fantasme. Alors là, ça s'étend de plus en plus le truc. Hein. Et puis finalement, il dit, bah écoutez, dire il n'y a pas de rapport sexuel, ça va pas. Ça, c'est très suspect de ne pas être du réel. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel, exit. Sachez-le, parce que si un jour on vous interpelle quand vous dites qu'il n'y a pas de rapport sexuel, vous dites oui, d'accord, on est d'accord, mais voilà, il faut savoir ça. Alors, on arrive là, je suis à 10.
Je peux dire quelque chose là-dessus,
hein, pour... Oui.
Je trouve que c'est important de relever ce terme de « il n'y a pas de rapport sexuel », mais... c'est un dire, effectivement, oui. Mais c'est le dire de Freud, ce n'est pas le dire de Lacan.
Ça, je sais pas.
C'est le dire de Freud, et justement, quand Lacan prend exemple de ce dire, il nous dit en même temps que c'est un dire qui est différent d'un dire, c'est un dire qui s'infère des dits de l'inconscient. Donc, c'est... Ça montre en même temps ce qu'est un dire.
Oui, oui.
C'est-à-dire comment un dire n'est pas un dire.
Non, c'est un dire. J'ai bien dit que c'était un dire, mais qu'effectivement ça bouge. C'est pas fixé définitivement. C'est ça que ça veut dire. Ça change tout le temps. Parce qu'il faut respecter la règle. Ou bien, le réel est impossible à dire et impossible à écrire, mais on ne peut l'attraper que par un artifice d'écriture. Ça change les perspectives du monde également. Quand on attrape un bout de réel dans le symbolique, eh ben, c'est un réel. C'est pas un vrai réel, c'est un réel. Alors que lui, il vise à trouver un signifiant nouveau. Et il prend l'exemple sur Newton en disant que je dois bien trouver un signifiant nouveau pour pouvoir extraire un nouveau bout de réel. Et il dit, il n'y arrive pas. Et comme il n'y arrive pas, il fait de son échec un succès. C'est donc qu'il y a un réel là. Il fait ça comme ça. C'est drôle. Une citation de son texte sur l'histoire de la régale, une réforme dans son trou. C'est un texte très rare et dont personne ne parle, et qui est très important pour nous, où Lacan dit que le savoir ne s'apprend pas par le travail. Ça ne s'apprend pas par le travail, mais par celui des autres. Alors, pour nous, on a compris, on est tous plagiaires de Lacan. Je vais finir là-dessus, puisque ce débat passe sur la parole. N'hésitez pas à dire des bêtises. Hein, parce que si on ne va pas à la racine du bébête, on tombe dans la connerie. Voilà.